Et maintenant, tous ensemble.
Vous venez avec nous?
Allons.
Bien sûr, l'aventure continue.
Maintenant, je fonce, Alphonse.
Ah, c'est bien, alors allez, on y retourne.
Au temps des transhumances, on s'en allait heureux, remontant la Durance, on était courageux. En préparant cette émission, ces bribes de chansons apprises en colonie de vacances me sont revenues en mémoire. J'ai chanté cette chanson à tue-tête maintes fois, mais que sais-je du temps des transhumances? Quel parcours empruntaient les bergers avec leurs bêtes? Quel paysage parcouraient-ils? Combien de temps durait cette lente migration? Et aujourd'hui, à quoi ressemble la vie des bergers et des bergères dans les alpages? C'est peut-être parce qu'elle se posait elle aussi ces questions que l'écrivaine Anne Vallès a entrepris de remonter l'ancien chemin de transhumance qui va d'Arles au vallon de l'Averque dans les Alpes de Haute-Provence. 380 km de périple, des chemins parfois difficiles à retrouver à travers les crêtes, les cols et les vallées, des paysages sublimes et des rencontres d'hommes et de femmes très attachés aux souvenirs liés à ce fleuve laineux et bêlant qui autrefois s'écoulait à travers la montagne. Anne Vallès retrace ce périple qu'elle a effectué avec Marie, la meilleure amie de sa fille, dans un très beau livre intitulé « Haute solitude ». Ça nous a donné envie de partir avec elle cet après-midi sur les traces des transhumants.
On part normalement au lever du jour pour la chaleur déjà et pour les voitures. Parce que les routes sont étroites et pour faire passer les voitures c'est un peu compliqué. Et les filles ? Non, non, non. Mais en fait les brebis sont habituées aux bergers. Et elles le suivent. Et puis, elles ont quand même la mémoire des années et celles qui sont déjà venues, elles pourraient y aller seules.
Nous voilà donc plongés dans l'ambiance du troupeau, mais aujourd'hui les transhumances telles qu'elles se déroulaient autrefois n'existent plus depuis les années 70, c'est ça Anne Vallès?
Oui, donc maintenant elles sont interdites. Le trafic, l'intensification du trafic routier a eu raison de ce voyage pédestre, mais jusque l'une des dernières, je crois, remonte à 1950. Mais moi, celle dont il est question dans mon livre, c'est ce qu'on appelle la grande transhumance, à ne pas confondre avec la petite transhumance, parce qu'il y a deux types de transhumance. Les petites transhumances concernent les déplacements qui ont lieu dans le périmètre du terroir, généralement en montagne, et la grande transhumance, c'est vraiment la grande épopée, c'est ces troupeaux qui, depuis 2000, 3000 ans, quittaient en un mouvement général Arles, les plaines surchauffées du Rhône, et progressaient peu à peu vers la fraîcheur des alpages. Et c'est cette grande transhumance-là, moi, qui me fascine.
Oui, c'est ça. Il y a une vraie attraction. Alors, la petite, c'est peut-être les extraits là, que l'on vient d'entendre.
Oui.
Ce sont ces déplacements de troupeaux qui restent très charmants à voir et qui doivent être très agréables pour les bergers. Oui. Mais on n'est pas sur plusieurs jours. Vous avez marché pendant 20 jours sur ce chemin des anciennes grandes transhumances.
Oui, c'est ce qu'on appelait autrefois les carrères.
Ouais.
Il y en avait quatre principales. Et celle que nous avons prise, Marie et moi, c'est la carrère d'Arles. Alors, nous avons eu cette chance-là, parce que c'est vraiment un privilège, grâce à un ami anthropologue qui sait tout de la geste pastorale et qui, depuis une bonne dizaine d'années, s'échine à retrouver le fil de cette fameuse carrère qui est complètement enfouie dans les friches et qui, évidemment, m'a mis l'eau à la bouche. Et je lui ai dit, je veux faire cette grande transhumance et il m'a proposé de m'aider.
Oui, alors vous vouliez la faire, mais comme vous dites, on se penche sur la carte et évidemment, elle n'apparaît pas. Le chemin qui devait être le plus efficace et en même temps éviter les plantations, éviter les habitations, parce que là, on parle de milliers, de dizaines de milliers de bêtes qui devaient s'aventurer, enfin, qui devaient prendre ce chemin. Donc forcément, il fallait éviter au maximum de déranger et de gêner. Mais ce chemin a pour partie disparu. Il n'en reste plus grand-chose aujourd'hui.
Oui, alors ces carrères étaient des chemins pierreux, larges. Ça n'a rien à voir avec les drails, les sentiers ou les pistes. Ils pouvaient faire jusqu'à 100 mètres de large pour faciliter la progression de ces caravanes animalières. Et généralement, ils empruntaient les lignes de crête pour préserver évidemment les cultures des paysans sédentaires en bas. Donc pendant tout ce périple, vous voguez finalement entre ciel et terre. Vous voyez, c'est...
Et alors, vous le dites, après avoir commencé à chercher, vous êtes renseigné sur sur cette grande transhumance du passé, avoir essayé de regarder les cartes, de les fouiller. Là, vous écrivez dans votre livre, « Il fallait confronter mes lectures et mes observations géographiques de briques et de brocs au modèle réel, au dessin des paysages, ressentir la trace sous les pas, éprouver la terre à mes pieds, la caresser des yeux pour de vrai, donner forme, réalité, épaisseur et continuité à la grande transhumance de cette épopée fille des montagnes. » Vous dites aussi « savourer cette orgie de lieux-dits, de mythes et de légendes ». Vous aviez vraiment une envie presque physique d'y aller sur ce chemin.
Ah mais ça me mettait, comme on dit, des fourmis dans les jambes. Pour moi, le simple mot de transhumance, le simple fait de l'évoquer, ça dit la Provence, les Provences, parce que la Provence est multiple, les grands espaces, les vastes horizons, le nomadisme, ces flots de laine déferlant sur les sentiers, et puis effectivement tous ces lieux-dits, Manosque, Maussane, Valensole, Digne, qui me renvoient inévitablement à Giono, qui pour moi est le magicien ou le sorcier, j'en sais rien, du Grand Sud.
Ouais. Jean Giono évoquant, il y a beaucoup écrit évidemment hein, sur la Provence, alors il évoque à la fois les paysages et puis les personnes qui vivent dans ces paysages.
Devant moi, il y a une espèce de grande carte blanche de terres inconnues. Et au milieu de ces terres inconnues, un cavalier visible, par exemple, pendant un cavalier visible avec son cheval, il est là, je le vois. Je ne vois pas ce qu'il y a autour, je ne vois rien. Et petit à petit, des taches vont se préciser, puis le paysage va venir. Alors là, le paysage va venir. Ce paysage est fonction de quantité de choses. Le paysage est fonction de tous les voyages que j'ai faits pendant la gestation de ces personnages. Le paysage est fonction parfois de sons, de musique, parfois de conversations, parfois de rencontres, parce que un personnage que je rencontre ne créera pas automatiquement un personnage dans mon livre, mais créera peut-être un paysage dans mon livre. De même qu'un paysage entrevu créera peut-être un personnage. C'est une espèce de mélange anthropomorphe. Les sons produisent des couleurs, les couleurs ont produit des formes, les formes ont produit des sons, tout ça est mélangé, c'est une espèce de pandémonium qui n'est pas encore coagulé et qui doit être semblable, j'imagine, à ce qui se passe dans la chrysalide du papillon un peu avant que le papillon sorte. Dans une espèce de liquide, de sans couleur, informe et démoniaque.
La voix de Jean Giono, c'est étonnant ce qu'il dit. Est-ce que vous qui avez traversé ces paysages et qui avez aussi rencontré hein, des bergers et des bergères sur votre chemin, est-ce que vous comprenez ce qu'il veut dire quand il dit « un paysage peut évoquer un personnage peut évoquer un paysage » ?
Certainement, c'est... je vous avoue même que cheminant au fil de ces jours... totalement imprégné par ce décor, ces espaces, les hommes que nous rencontrions, les brebis aussi, que j'aime les brebis, me mettaient dans un état quasiment second. J'étais quasiment en suspension, je ne pensais à rien, j'avais le sentiment vraiment d'être, de faire corps avec cette terre et ma grande inquiétude de temps à autre, c'était, mais comment, de retour chez moi, vais-je m'atteler à la tâche de mettre des mots sur tout ce que j'ai senti, ressenti aussi intensément? C'est vertigineux.
Oui.
Et chez Giono, je le lis et je le relis sans fin depuis des années et des années, je n'arrive toujours pas à comprendre comment il s'y prend pour jongler comme ça avec les mots et... avec les images, avec les métaphores, c'est plus un sorcier qu'un magicien de mon point de vue.
Ouais. Alors c'est amusant que vous disiez ça parce que ça se sent hein, dans votre livre. Les mots sont choisis. Vous utilisez un vocabulaire très riche pour décrire ces paysages que vous traversez, ces odeurs, ces sensations, les couleurs. On sent que vous avez eu à cœur de nous faire partager tout ça au plus près, au plus juste.
Et c'est vrai qu'il a. Combien de fois ai-je été confrontée à ce problème ? Comment décrire quelque chose qui me coupe le souffle au point de ne pas trouver les mots ? Comment vais-je faire ? Et en même temps, plus vous vous immergez dans ce pays, et plus vous vous immergez également dans sa langue. Ouais. Et c'est la langue d'oc, cette langue légèrement étrangère, qui est infiniment plus riche que la langue que l'on trouve dans le dictionnaire. Donc évidemment, moi, j'ai avalé, j'ai puisé dans ce vocabulaire-là.
Ouais, vous êtes attaché au mot, d'ailleurs, le mot transhumance. Il vous intéresse, ce mot transhumance? C'est un mot valise, hein, quand on le décortique un peu.
Oui, puisqu'il vient étymologiquement de trans, au-delà, et humus, terre, donc par-delà les terres. Ouais. Vous voyez comme on peut se sentir aspiré par la simple évocation de ce mot, quoi. Ouais. Et
alors vous avez eu envie d'être aspiré hein, par ces sentiers, ces anciens chemins, ces carrères. Alors vous, c'est la carrière d'Arles hein, que vous aviez choisi. Pourquoi celle-là? Pourquoi la carrière d'Arles? Il y en a quatre hein, de ces grandes carrières.
Il y en a quatre, parce que c'est celle que notre ami Patrick Fabre est en train de sortir des limbes, si je puis dire, et qu'il nous a aidés pour pouvoir la parcourir, parce que c'est pas évident du tout. Oui. Elle est encore bien enfouie dans les friches. Lui-même, même s'il travaille depuis une dizaine d'années dessus, n'en possède encore que des jalons, et ses chemins n'est pas balisé du tout. Oui. Mais c'est le seul. C'est le seul chemin qu'il pouvait nous offrir, et il nous avait préparé une série de cartes géniales, ouais. Plastifiées pour pouvoir résister aux intempéries. Ouais.
Alors il n'est pas venu avec vous, hein.
Ah, non. On était des pionnières. Ouais. Mais ce chemin lui-même ne l'a pas fait intégralement seul. Ouais. Il nous a un peu envoyé sur les chemins comme des cobayes, et on s'est perdu joyeusement malgré ces cartes qui étaient méticuleuses.
Et dans quel état d'esprit vous étiez? Donc effectivement, on suit ça. Vous le racontez. Dans votre livre, on est en mai 2015, hein, je crois, quand
début
vous partez.
Juin. Tout début juin.
Vous partez au moment où partez les transhumances, hein, finalement, au moment du printemps. Vous êtes au point de départ. Il vous rejoint avec ses cartes plastifiées. Il vous donne les instructions. Il vous dit alors, il faudra aller jusque là. Là, on vous attend. On pourra vous héberger. Il vous a concocté tout un itinéraire. Vous, à ce moment-là, vous êtes excitée, vous êtes un peu anxieuse de peut-être pas réussir, parce que ça va être une longue trotte, hein, 380, même si c'est au pas lent hein, de la transhumance, il va falloir faire ces 380 kilomètres dans les montées pendant une vingtaine de jours. Dans quel état d'esprit vous étiez?
Les jours précédents, j'en dormais pas. Ouais. D'autant plus que je ne suis pas ce qu'on pourrait appeler une marcheuse professionnelle. Je ne marche pas pour marcher. Et puis, en plus, je suis une fille du plein pays. De la platitude, puisque je suis belge d'origine, donc je redoute un peu la montagne. Et puis, plus grave encore, non, ce que je redoutais, c'était pas tant mes jambes. Je savais qu'elles me soutiendraient parce qu'elles sont bonnes. Ouais. Sans me vanter, j'ai de bonnes foulées. Mais c'était le souffle. Est-ce que j'en aurais suffisamment pour progresser dans les dénivelés, franchir l'école? J'en étais pas sûre du tout.
Alors, on va le raconter, hein, ce voyage, dans la suite de l'émission, juste pour nous mettre un peu l'eau à la bouche. Ce voyage a-t-il été à la hauteur de vos espérances?
C'était la jouissance absolue. Moi, j'ai eu l'impression, je crois que j'ai une idée maintenant de ce que peut être le septième ciel.
Ah oui.
C'était éblouissant, enfin, une espèce de sentiment d'être en communion parfaite. Je veux pas tomber dans le lyrisme, mais vraiment, c'est ce que j'ai, le souvenir indélébile que j'en retiens, c'est bien ça, une espèce de communion parfaite avec la terre dans laquelle nous pénétrions, les oiseaux, on avait l'impression de voler dans les airs comme eux, les éléments, c'était très, très jouissif, avec des épisodes très très éprouvants aussi, hein, très durs, pas évidents du tout.
Vous allez nous raconter votre périple sur ces sentiers, Anne Valaise, le temps d'un bivouac, sur les anciens chemins des transhumances, avec vous sur France Inter.
C'est plus élégant que mes larmes en déluge parce que qu'on s'est crié des mots qui ont sali tous nos plus beaux dessins. On a hurlé des chaudières d'encre noire sur le bonheur. J'expose ma tête, mes yeux, mon cœur et mes mains si tu reviens. Chaleur, notre monde à le fière. Je me sers de l'empreinte de mes mains comme une couverture qui apaisera le chagrin des blessures. Parce qu'on s'est crié des mots qui ont sali tous nos plus beaux dessins. On a hurlé des chaudières d'encre noire sur le bonheur. Mais ce tableau représentera le moi de demain. Un robot qui nous aidera à remonter les heures. Je t'expose ma tête, mes yeux, mon cœur et mes mains si tu reviens.
La peine.
Si tu reviens, c'était Louis-Jean Cormier sur France Inter.
Allez! Allez! Allez, tourne-toi! C'est pas vrai! T'es plus presque autant que les bergers. Allez!
La transhumance, bon, c'est vrai que quand arrive le mois de juin, on se languit que les bêtes partent parce que bon, chez nous, ça devient difficile, il fait chaud, c'est. Donc, bon, ça, c'est indéniable. Quand arrive le fermier début juin, il faut que les bêtes s'en aillent.
Ouais. Chippy ! Chippy est dehors. La montée a été parfaite. Ça s'est très, très bien passé. Et puis, comme on a calé là au col naturel pour faire manger un peu et attendre l'heure précise pour rentrer au col, là, elles ont bien mangé, elles avaient le ventre plein, elles se sont calées, elles ne voulaient plus passer le col, elles ne voulaient plus sortir. Et puis un peu les touristes qui étaient là, tu ne peux rien leur faire comprendre, ils se mettent au milieu pour prendre des photos, on les comprend, mais ça n'arrange pas. On ne pouvait pas les faire passer, il a fallu aller en chercher une, on l'a tirée, la traîner par les cornes, et alors après, tout a parti.
Allez, allez, go.
Et oui, nous aussi, nous partons regarder les troupeaux sur les chemins des transhumances en essayant de ne pas trop déranger les bergers. Nous sommes en compagnie d'Anne Vallès qui a publié « Haute solitude sur les traces des transhumants » aux éditions de la Table Ronde. C'est une véritable aventure que vous avez vécue. Vous avez marché 380 km en une vingtaine de jours. Vous vous étiez préparé à cette longue marche. Vous avez dit que les jours précédents, vous ne dormiez plus d'excitation et puis aussi peut-être un peu d'appréhension. Est-ce que vous étiez préparé, Anne Vallès?
Pas vraiment, non. Non, c'est peut-être la part d'inconscience qui me caractérise. Je n'avais même pas de carte. Je m'étais dit, c'est pas la peine d'alourdir mon sac, mon havre-sac, avec une multitude de cartes IGN. Là. Donc, j'ai fait toute confiance dans le savoir-faire de notre ami Patrick.
Oui, et qui est donc l'anthropologue qui avait dessiné sur les cartes l'ancien tracé de ces transhumances.
Voilà. Et donc, à Arles, il nous a accueillis et puis il nous a expliqué. Et heureusement que je ne suis pas partie seule parce que j'ai un énorme, mais vraiment un énorme problème. C'est que je n'ai aucun sens de l'orientation. Mais c'est catastrophique, c'est pathologique, je crois.
Mais au départ, vous étiez prête à le faire toute seule. Mais c'est en parlant avec la meilleure amie de votre fille, Marie, qui a dit, je viendrai bien avec vous.
Oui. Mais Les vrais marcheurs, les authentiques marcheurs prétendent qu'il faut marcher seul. Donc moi, je me fie à leur jugement. Mais plus les jours approchaient, le jour J approchait, et plus je flippais. Oui. En me disant, mais moi, je vais pas affronter 380 km seul. Oui. S'il m'arrive un accident, si je tombe dans une faille, que sais-je. Et Marie, heureusement, s'est manifestée, apprenant que je me lançais dans cette aventure, m'a proposé de l'accompagner. J'ai sauté sur l'occasion parce que je n'avais aucun sens de l'orientation et elle était beaucoup plus débrouillarde de ce point de vue-là. Donc je lui ai lâchement abandonné la lecture des cartes, ce qui ne nous a pas empêché du tout de nous perdre parce que les chemins et les sentiers, il y en a un embrouillamini. Oui. Donc comment distinguer la carrière parmi tous ces chemins qui se présentaient sous nos pas, c'est pas évident du tout, surtout qu'ils n'étaient pas balisés. Oui. Donc,
Et ces chemins passent parfois maintenant par des propriétés privées, sont parfois avec des hautes herbes complètement en friche. Donc effectivement, même une fois qu'ils sont identifiés, des fois c'est difficile de les prendre.
Oui, ben, on a eu le cas en Croix où il a fallu qu'on traverse un domaine, le domaine d'une éleveuse qui avait la réputation d'être très très dure et pas sympathique du tout. Et on l'a franchi gaillardement et on n'emmenait pas large. Et de fait, elle a été très hospitalière et elle nous est tombée dessus.
Oui.
Dans cette steppe désertique. Elle nous a de fait souhaité la bienvenue. Et de fait, ça s'est bien passé.
Oui, finalement.
Il y a d'autres endroits où, effectivement, d'un seul coup, même sur les cartes de Patrick, normalement, le chemin était bien indiqué. Et puis, d'un seul coup, on se trouvait face à une clôture qu'il n'avait pas repérée. Mmh. Donc là, on est coincé.
Oui. Donc vous vous êtes retrouvé coincé, perdu, parfois à devoir affronter des soleils de plomb, hein, de véritables. On sent, hein, c'est éprouvant. Vous le décrivez très bien. On sent que vous êtes écrasé de chaleur. Parfois, plus vous montiez, après ça a été aussi les intempéries, les orages. Vous avez essuyé tout ça, mais comme vous le dites, avec finalement beaucoup de bonheur.
Ben, tout ce périple m'a permis de réfléchir à ce voyage qu'empruntaient ces dizaines de milliers de bêtes avec leur
berger
et leurs chiens. Et pour eux, c'était une épreuve aussi. Simplement, eux, en cas de canicule, ils le progressaient la nuit. Nous pas, on était un peu idiotes. Ouais. Et puis, les bêtes chômaient, comme on dit, se reposaient le jour. Mais pour les bêtes, c'était une épreuve aussi. C'était les agnelles et les agneaux qui, pour la première fois, partaient en montagne à bout de souffle. Les hommes et les bêtes qui dormaient debout. Les brebis éclopées qu'on récupère sur le dos des ânes. Sans oublier, effectivement, les aléas, quoi. Les torrents devenus fous d'un seul coup qui noient hommes et bêtes. Non, c'était une véritable épopée.
Ouais, une véritable épopée qui a plu, hein, à Jean Giono, que l'on évoquait tout à l'heure, dont on entendait la voix. Il a beaucoup écrit sur ces bergers qui ont affronté les transhumances avec leurs bêtes. Je vous propose d'écouter cette fois un extrait de L'eau vive, l'un de ces recueils de nouvelles de Jean Giono.
Des lourdes bures, des gros pieds, des brûleurs de loups, des gosiers, des couches à l'herbe, des manches verts, des écrases chrétiens. Pour dire tous les surnoms que les hommes apprivoisés leur donnent. Mais pour leur mettre leur véritable nom, des bergers, les chefs de bêtes. En tête marche le berger maître. C'est un homme comme les autres, sans noblesse théâtrale, sans regard de feu, assez souvent petit et noireau, et tout ramassé comme une boule, avec des nerfs tendus, et qui va la tête basse. C'est un homme comme les autres, mais c'est le chef. Je vous le dis, c'est le chef des bêtes. Le véritable chef des bêtes, sa noblesse, elle est là, dans ce geste, ce simple geste qui arrête ou lance le solide effort des béliers. Sa noblesse, elle est dans ce petit mot qui vient de sortir de sa bouche, et tout le troupeau s'est arrêté, figé sur place. Chaque fois que j'ai dit des bergers, des chefs de bêtes, on m'a répondu « Croyez-vous ?» et j'avais beau mettre toute mon ardeur à dire oui et à expliquer, je voyais toujours la petite moue qui signifiait « Oui, on vous croit, mais vous vous emballez trop, mon ami. » Je sais pourquoi maintenant. Chaque fois devant les yeux de ceux qui m'écoutaient, ce mot « berger » faisait naître ou bien l'image de l'heureux titir, ou bien la vieille silhouette du grand-père qui garde deux ouailles autour de sa ferme. Les bergers dont je veux parler sont un peu différents. Ce sont des bergers de transhumance.
Extrait de L'eau vive, recueil de nouvelles de Jean Giono. Je vous voyais écouter Anne Vallès avec beaucoup de plaisir, un immense sourire.
C'est magnifique. Ouais. C'est magnifique. Et puis, il parle effectivement des bergers. Écoutez, moi, il se trouve qu'il y a 2 ans, j'ai fait une estive avec une bergère à 2300 mètres d'altitude et j'ai vu ce que ça voulait dire, être berger. Être berger, c'est être au troupeau, c'est faire corps avec le troupeau, ce n'est pas garder ou conduire un troupeau, parce que c'est un troupeau, c'est pas une masse monolithique, amorphe, c'est tout le contraire. C'est quelque chose d'une mobilité incroyable, qui est sans arrêt en mouvement, qui se meut, qui se forme, se déforme, se recompose. Et le berger ne commande pas un troupeau. Il ruse avec un troupeau, il compose avec un troupeau, il négocie avec un troupeau, en sachant qu'en plus, le troupeau évolue au gré du temps qu'il fait. Est-ce qu'il fait humide? Est-ce qu'il fait sec? Est-ce qu'il y a du vent? Est-ce qu'il pleut? Est-ce qu'il y a du brouillard? Il se met aussi, évidemment, en fonction de la géographie des lieux, les creux, les bosses, les replats, etc., en fonction de son appétit. Et le berger, il faut qu'il fasse corps, qu'il y ait un esprit d'équipe entre le berger et les brebis. Il faut un apprentissage, un co-apprentissage, parce que les brebis doivent apprendre aussi leur berger. Et ça, c'est tous les jours, de l'aube au coucher, quel que soit le temps qu'il fait. Ouais. Et c'est 3 mois durant, en haute montagne, sans contact avec le monde d'en bas. Vous voyez, c'est un monde à part, c'est des êtres à part, c'est évident.
Ouais, on y reviendra d'ailleurs dans la dernière partie de l'émission à ces êtres à part que vous aimez particulièrement. Hein, on l'entend, hein, c'est un véritable hommage que vous leur rendez. Vous décriviez aussi, là, au fil de votre explication, ces paysages dans lesquels évoluent ces bergers. Et ces paysages dans votre livre, vous les décrivez de façon sublime, toujours avec des références aussi. Parfois, vous traversez un paysage et vous faites une référence à Van Gogh. Pour vous, Van Gogh a forcément peint le paysage que vous avez devant les yeux. Parlez-nous un petit peu des visions. Un paysage qui évolue tout au long du parcours. Hein. Il est changeant en permanence. Aucune routine dans les régions que vous traversez.
Et non, parce que de fait, on traverse depuis Arles jusqu'au Laverque, mais on traverse plusieurs pays. Il y a d'abord la plaine camarguaise, la Croix, cette espèce de steppe, dernière steppe qui existe en Europe. Ensuite, vous gravissez un peu, c'est la campagne, les Alpilles, avec un paysage singulier aussi, c'est la garrigue, les oliviers, puis c'est la campagne aixoise, cette espèce d'oasis florentin, si je puis dire, enfin, de paysage sublime. Et puis, à chaque fois, c'est effectivement un décor différent. C'est difficile à exprimer. Moi, j'avais le sentiment, en plus, je pensais justement à Van Gogh, mais je pensais à des tas d'autres peintres qui m'accompagnaient au fil de cette marche, un peu comme des ombres, des gentils fantômes, vous voyez. Je pensais à Van Gogh, je pensais à Théodore Millet, Théodore Rousseau de l'école de Barbizon qui a précédé les impressionnistes. Et je les comprenais parce que eux, ils étaient sans arrêt en quête de la lumière. Comment transposer, faire parler la lumière au travers de leurs pinceaux? Et moi, je me posais les mêmes questions, mais moi, j'ai pas de pinceaux, c'était des mots. Vous voyez, c'était très exaltant.
Ouais. Vous saviez déjà, sur ces sentiers, que vous en feriez un livre, que vous raconteriez ça ensuite?
Ah oui, c'était l'objectif. Ouais. Moi, j'étais partie dans cet objectif, c'était rendre hommage à la geste pastorale, à ces bergers d'aujourd'hui, parce que ce périple que nous avons fait, Marie et moi, n'a rien à voir avec un pèlerinage. Il ne s'agit pas du tout d'un monde disparu. Il est bel et bien vivant, et les bergers d'aujourd'hui, ils le poursuivent.
Ouais. Donc, bel et bien vivant, hein. Vous les avez croisés, ces bergers, sur votre chemin. Vous allez nous dire ce que signifie être berger ou bergère aujourd'hui. Le temps d'un bivouac dans les alpages sur France Inter. Get it? Text a message, I don't know the number. Flexing on these flexes, every bone and muscle. Steady taking shots, never hurting them. Even then, y'all don't worry nothing. And I'd like to give a shout out to my new man with the game plan. And shout out to my new man with escape plans. 20 bands, rain dance. We can eat the rain check or we can make plans. Pockets loaded, rocket loaded, can't let's rock and roll this. Time to go, lock, stock, and two smoking barrels locked and loaded. Diamonds glowing, chop, climbing on them. You think I'm jumping out the window, how I got them open. Line around the corner, line them up, the block and over. Sometimes I even stop the smoking when it's time to focus. My shade, Dior, my pants, velour. Create, explore, expand, concord. I came, I saw, I came, I saw. I praise the Lord, then break the law. I take what's mine, then take some more. It rains, it pours, it rains, it pours. I came, I saw, I came, I saw. I praise the Lord, then break the law. I take what's mine, then take some more. It rains, it pours, it rains, it pours. Yeah, I sold the pack, the loose, the hard. Yeah, I listen to X, I beat the bars. Yeah, the snakes, the rats, the cats, the dogs, the games, a trap. Protect your heart. Yeah, I waited in line. Return, refine the new design. It's time to shine, to shine, to shine, to shine, to shine. I hustle, I flex. The world is mine, so please believe. Allow the grease, these disease. Don't speak, we squeeze. I make the devil go weak the knees. You hate, you're lame, you're lost. I came, I saw, I came, I saw. I praise the Lord and break the law. I take what's mine and take some more. It rains, it pours, it rains, it pours. I came, I saw, I came, I saw. I praise the Lord and break the law. I take what's mine and take some more. It rains, it pours, it rains, it pours. I came, now what's my name? My chain, my pants with the chain. They know it's me, the hat and the shades. They heard my voice and they ran to the stage. My Vans, my brains, my mans, my babe, my girls, my ex, my that I left. The way I step out the car, that's a flex. Get thanks, get fresh, raise the love, then finesse. Bless. I came, I saw, I praise the Lord, then break the law. I take what's mine, then take some more. It rains, it pours, it rains, it pours. I came, I saw, I came, I saw. I praise the Lord, then break the law. I take what's mine, then take some more. It rains, it pours, it rains, it pours. Praise the Lord, c'était ASAP Rocky et Skepta sur France Inter, le temps d'un bivouac.
Mais moi, je dis particulièrement que je suis bergère. Ça fait mieux, c'est plus joli. On est content d'avoir, on va naître un petit agneau, on est toujours après, on l'élève, on est là, je veux dire. Ça nous plaît de le faire revenir, de le faire vivre, quoi. Vous avez beaucoup de bêtes, mais là, il y en a 2000. Hein. Tout le monde dit que ça fait un gros troupeau, mais c'est, comme je dis, c'est, notre région le veut. Par rapport aux problèmes économiques, tout ça, si on n'a pas un gros nombre de bêtes, on peut pas vivre. Les petits troupeaux n'existent pas chez nous. Avant tout, c'est une passion. Ça vient à naissance, c'est inné. Je sais que depuis que je sais marcher, je suis avec mon père. Dès qu'il partait, c'était pour aller voir les brebis, j'étais toujours après, tout le temps, tout le temps, tout le temps.
Et alors, la transhumance, vous aimez?
Oui, je l'aime maintenant. C'est une transhumance, je veux dire, c'est les camions, hein. Je veux dire, on fait un petit peu à pied. Mais moi, je pense que la vraie transhumance, ça devait être bien comme avant, quoi. Qui partait de la Croix jusque dans le Vercors, il mettait 8 jours. Et tous les jours, ça devait être la fête. Je veux dire, tout le monde était accueilli. Je veux dire, dès qu'ils entendaient le troupeau, tout le monde se levait.
Magali Lemercier, qui est bergère. C'était un extrait du magazine de Cause à effet de France Culture en 1992. Nous sommes toujours avec Anne Vallès, auteure de Haute solitude sur les traces des transhumants, paru aux éditions de la Table Ronde. Quand vous entendez cette bergère qui s'exprimait en 1992, est-ce que ça vous rappelle des discours qu'on tient encore aujourd'hui, ou est-ce que ça a déjà changé aujourd'hui en 2018?
Oh non, c'est tout à fait ça. Il se trouve que au fil de notre marche, à chaque étape, nous étions reçus, accueillis par des éleveurs et des bergers qui nous offraient l'hospitalité pour la nuit. Et donc, on se retrouvait autour de la table et ils nous parlaient de leur vie, de leur bonheur d'être avec les animaux, de la difficulté de vivre. Ils tirent le diable par la queue, de cet acharnement à résister en dépit des vents contraires, c'est-à-dire les prix de l'agneau et de la laine qui sont les mêmes que dans les années 80, le prix du foncier qui devient tellement énorme que les jeunes ne peuvent pas se lancer dans l'aventure. Les écoutant, ça me renvoie... Ça me fait penser évidemment à ce que je viens d'entendre, c'est-à-dire que vous découvrez un monde où on fait attention aux bêtes, non pas parce que c'est son gagne-pain, mais parce que c'est pas des machines et que on vit avec elles, qu'on les a aidées à naître, on les a élevées, on les a soignées. Tous les matins, on part avec elles dans les champs, on rentre le soir avec elles, on trime toute la journée sous le cagnard ou sous les orages. C'est les filles, quoi.
Ouais.
Et on parle, on leur parle, on les cajole, on les engueule. Ouais. Tout ça, finalement, ça crée des liens, vous voyez. Donc, et puis il y a cette espèce, effectivement, de passion des bêtes. On retrouve ça tout le temps. C'est la passion des bêtes.
Oui. D'ailleurs, une des éleveuses, hein, je crois que vous croisez au début, enfin que vous rencontrez, parce que vous passez toute la soirée chez eux, mais c'est au début du périple, qui vous dit, elle préfère le terme berger ou bergère à éleveur. Oui. Elle n'aime pas ce terme de...
Non, ça fait trop élevé. Mais pourquoi? Parce que ce terme élevage a été complètement perverti. Et qu'on ose appeler aujourd'hui élevage ce qui ne relève pas de l'élevage. Ce qu'ils exercent là, cet élevage extensif, c'est ce que devrait être l'élevage. Et ils ont le sentiment d'être bafoués, humiliés aussi. C'est des gens qui sont fiers, qui ont une idée de ce qu'ils font, quoi.
Est-ce qu'il y a sur votre trajet aussi des bergers qui ne sont pas issus de familles de bergers, c'est-à-dire des gens qui viennent de la ville, qui ont un parcours tout à fait différent, mais qui se prennent de passion pour ce métier-là, malgré toute la rudesse et les difficultés que l'on connaît pour les bergers et les bergères aujourd'hui.
Oui, bien sûr, il y a tout un mouvement là de cette nouvelle génération qui rappelle un petit peu le retour à la terre qu'on a connu après les années 68, hein, dans les années 70, qu'on appelait les babas, ces nouveaux venus. On retrouve un peu le même phénomène des citadins, de caissières de bureaux, caissières de grandes surfaces, employés de bureaux, ouvriers dans les chantiers navals, enfin de tout. Ouais. Mais ils sont beaucoup mieux préparés que ce que l'était la génération
68
arts. Ils se préparent véritablement. Ils suivent une formation dans des lycées agricoles, des écoles de formation de bergers. Ils font d'abord berger. Pendant 3 mois, ils font l'estive sur les hauteurs alpines. Mais souvent, avec l'argent qu'ils ont gagné, ils s'envolent aussitôt après vers la Nouvelle-Zélande, l'Australie, tous ces pays d'immenses troupeaux, parce qu'ils adorent ça. Mmh. Et ils reviennent et puis ils se forment comme ça, petit à petit, au cul des brebis et avec les anciens. Et tout ça c'est aussi ça. Nourri avec une littérature scientifique aussi. Mmh. Hein, et c'est des types qui ont des idées bien précises dans la tête. Hein, s'ils font pas ça, c'est pas des rigolos. Hein.
Ouais, bien sûr, oui, c'est ça. C'est-à-dire c'est que il faut pas avoir cette image un peu passéiste, dépassée du berger qui a pas vu l'époque évoluer autour de lui. C'est en connaissance de cause et c'est en prenant l'ensemble de ce qui se fait aujourd'hui qu'ils choisissent cette vie.
Oui, oui, en toute connaissance de cause.
En toute connaissance de cause. Et ces bergers sont attachés à leurs bêtes. Parole de berger.
Tu leur donnes et elles te le rendent, quoi. C'est, En fait, des fois, tu te poses la question quand elles sont perdues. Bon, surtout en ce moment, il y a le loup, tu vois, il y a des trucs. Tu te dis, mais qu'est-ce qu'elles vont faire sans moi, tu vois. Et puis tu réfléchis un peu, tu te dis, mais merde, qu'est-ce que je vais faire sans elle. Et c'est vachement plus important, tu vois. En fait, tu te rends compte que je pense qu'elles n'ont pas besoin de toi, mais moi, j'ai vachement besoin d'elles. J'ai besoin d'elles parce que pour la vie qu'elles me font. Je gagne ma vie en faisant ça, quoi. C'est fabuleux. Et puis j'ai besoin d'elles, c'est une thérapie, presque, tu vois.
Extrait du documentaire Grandeur Nature, la transhumance. C'est beau, hein, ce qu'il dit ce berger. Il a plus besoin de ses brebis que l'inverse.
Ouais.
Vous avez rencontré cette même passion chez les bergers que vous avez croisés.
Leur vie est totalement associée. Enfin, tous les bergers et éleveurs qui nous ont reçus, on retrouve exactement la même chose. C'est que les brebis font partie de leur communauté familiale, quoi. Et les chiens, n'oublions pas les chiens. Pour moi, ce type d'élevage pastoral, c'est un modèle d'alliance parfaite entre l'homme, la brebis et le chien, dans un rapport constant avec la nature, les pentes, le fil des saisons. Pour moi, c'est ce que devrait être l'élevage.
Et alors, cet éleveur, il faisait référence, le loup. Le loup, vous en avez entendu parler sur votre parcours.
Oui, plus nous avancions et plus ils s'invitaient autour de la table chez nos hôtes. Inévitablement, la conversation tombait sur le loup. Il était question des attaques de nuit comme de jour, quelquefois à deux pas de la cabane, au mépris du chien de protection. Il était question des nuits sans sommeil à guetter, de l'angoisse au petit matin de se lever en découvrant des bêtes amochées, de devoir euthanasier les bêtes bousillées et pour qu'elles ne souffrent pas. C'est une hantise et c'est un véritable problème, évidemment, et qui ne peut se résoudre d'une manière... Enfin, il y a une chose que je n'arrive pas à comprendre quand je suis à leur côté et qu'ils me parlent de tout ça. Je n'arrive pas à comprendre une chose, c'est que je pense que la protection de la nature ne peut se réduire à la conservation biologique intégrale d'une espèce au détriment d'autres, a fortiori lorsque celles-ci sont considérées d'intérêt écologique elles aussi, vous voyez. Dans les gestionnaires aujourd'hui, depuis 20 ans, les gestionnaires de l'environnement dans les parcs régionaux s'appuient sur le savoir des bergers et de leurs brebis pour participer de la pérennisation de l'écosystème, de l'ouverture des milieux. Tout ce travail est de fait perturbé, mais quelquefois dans des situations dramatiques, par la présence du loup et surtout... Bon, que le loup soit là, c'est un fait, mais qu'il soit protégé intégralement, c'est quelque chose qui semble un peu affolant, quoi. Ouais. Parce qu'on en arrive à condamner la nature qu'on prétend défendre et ceux-là même qui participent à sa protection.
En tout cas, ce débat, il est compliqué. D'ailleurs, dans le temps d'un bivouac, on a reçu des gens qui étaient pour la sauvegarde du loup, des gens qui, effectivement, eux, comme vous, disent, ben oui, mais les bergers, faut bien qu'ils vivent. Et moi, je trouve que c'est un débat, à chaque fois qu'on l'aborde sur France Inter, on a des tonnes et des tonnes de messages très énervés qui vont dans les deux sens. En tout cas, il y a une certitude que j'ai sur ce sujet, c'est que des deux côtés de la table, il y a des amoureux de la nature. Aussi bien sur ceux qui défendent le loup que sur ceux qui défendent les becs. Et c'est vrai que pour les bergers, ça doit être un petit peu dur parfois d'être renvoyé à vous n'aimez pas la nature puisque vous êtes contre le loup. C'est quand même beaucoup plus subtil que ça.
Bien sûr, c'est infiniment complexe. Oui. Ouais.
Merci beaucoup Anne Vallès de nous avoir fait partager cette transhumance avec vous. Votre livre s'intitule « Haute solitude, sur les traces des transhumants ». C'est édité par la Table Ronde. Vous restez avec nous parce que dans un instant, on va boire un coup au Mexique.
Sitôt perdu en France en homme, je me trouvais la maladie. Tourange ancienne air en nuage, j'allais le visage enfoui. Au crépuscule passe une âme, tout se voit de mélancolie. j'allais au projet indéniable pour toute chose. Quel est ce boucan infernal? Toutes les bêtes prennent la fuite. Quel nid précaire dans la montagne? Je vis comme un mort, je te dis. Collé aux choses, allez mon âme, prise dans cette supercherie. Au cinévox, farfouille l'âme, farfouille l'âme. Dans sa personnage au cinévox au paradis, passé mes crises misérables, je m'y glissais comme en un lit. Alors si grand malheur était de ne pas se sentir aimé, je me glissais comme en un rêve, me glissais bon dans une autre vie. Se séparer de tout ce qu'on a aimé, les souvenirs d'un palais, l'art d'écrire d'un écuyer. Au cinévox, comme on regarde, comme on voyage jusqu'au glacier. Quel jeune enfant promenade qui ne peut feindre se séparer.
C'était Cinévox, Jean-Louis Murat sur France Inter. La programmation musicale du temps d'un bivouac est signée Elsa Béranger. Et à 17h52, si nous allions boire un verre...
Tiens, qu'est-ce que c'est que ça, là?
À la soupe!
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 Bonjour Zazie Tavitian.
Bonjour Daniel.
Nouvelle venue dans le temps d'un bivouac, vous êtes journaliste gastronomique, vous avez créé le site Saumon, la culture à contre-courant, dont nous sommes désormais partenaires, et tous les lundis du mois d'août, vous allez nous donner une bonne raison gastronomique de partir pour une ville ou un pays. Alors aujourd'hui on va où?
Alors oui, et aujourd'hui je vais vous donner une bonne raison de partir au Mexique, et plus précisément au sud de Mexico, dans la région de Oaxaca, en vous parlant du mezcal. Alors le mezcal, c'est un alcool mexicain millénaire qui est fabriqué à partir des agaves, une plante endémique au Mexique.
Et comment vous avez découvert cette boisson qu'il faut boire, je le dis tout de suite, avec modération?
Alors j'ai découvert le mezcal à Paris, en interviewant il y a quelques années David Miquires, qui est un jeune franco-mexicain qui importe des bouteilles de bon mezcal dans les bars à cocktails français, et je suis tombée amoureuse de cette boisson. Alors, pas seulement parce que c'est de l'alcool, que ça rend ivre et que l'on fait la fête avec.
On a dit avec modération.
Voilà, avec modération, évidemment. Mais parce que le mezcal, c'est une boisson passionnante d'un point de vue organoleptique. Pour Eric Asimov du New York Times, c'est l'un des spiritueux les plus complexes, intéressants et intrigants du monde. Et ce qui est passionnant, c'est que c'est aussi une boisson qui raconte l'histoire culturelle du Mexique. Alors, il y a quelques années, c'était un alcool qui avait encore très mauvaise réputation. C'était un peu considéré comme la gnôle que buvaient les paysans chez eux. Mais aujourd'hui, il y a toute une jeune génération qui s'en est emparée. On le trouve dans les bars à la mode au Mexique. Il est aussi exporté partout dans le reste du monde. Et ça, ça permet à des Mexicains de vivre du travail de leur terre, ce qui est important dans ce pays où on émigre beaucoup, surtout chez les États-Unis voisins, pour des raisons économiques.
Donc du coup, cette année, Zazie, vous êtes allée au Mexique et vous avez visité une plantation de mezcal.
Alors oui, j'ai choisi de partir au Mexique en mai pour les temples mayas, la Aztèque, c'est sûr. Mais je dois admettre aussi en grande partie pour les tacos et le mezcal.
Ah bah bravo.
Et j'ai donc été à Saint-Balthazar Gela Villa, qui est un tout petit village de la région de Oaxaca, au milieu de la Sierra Madre, et j'ai débarqué sur le palenque de l'entreprise Koch. Le palenque, c'est l'endroit où on fabrique le mezcal, et là-bas, j'ai retrouvé Pedro. Dans sa famille, on est maestro mezcalerio depuis 5 générations.
Ah bon, d'accord, mais alors c'est quoi maestro mezcalerio?
Alors, les maestros mescalerios, c'est un peu les maîtres du mescal, si vous voulez.
Ah oui.
C'est un métier qu'on se transmet de père en fils ou de mère en fille, parce qu'on peut aussi être une femme qui fait du mescal. Et ce sont des personnes qui vont savoir où trouver les agaves sauvages, comment les soigner, quand les cueillir. Et avec Pedro, on a suivi tout le processus de fabrication du mescal. Donc, une fois les agaves cueillies, on chauffe les cœurs qu'on appelle piña, dans un four en terre creusée que l'on recouvre. Puis, on les sort, on les coupe, on les écrase grâce à une roue que fait tourner un cheval. Et ensuite, on les laisse fermenter en plein air dans des grosses cuves. On entend d'ailleurs, quand on est sur le palenque, le bruit de la fermentation, le glouglou, on voit les bulles. On a un peu l'impression que le mescal vit, c'est assez dingue.
Ah oui.
Et après quelques jours de fermentation, arrive la distillation. Et ensuite, le mescal est prêt à être bu.
Et donc là, vous en avez goûté sur place, j'imagine.
Alors oui, j'en ai goûté pas mal. On s'est installé autour d'une grande table en bois. Là-bas, on a dégusté de nombreux mescals issus des différentes agaves, un peu comme les vins et ses différents cépages. Et tout en buvant, on a eu droit au récit de Pedro, le maestro, sur les effets que lui procure chacune de ces agaves. Alors, parmi elles, il y a le tobacitche qui le fait pleurer avec goût. Il y a le tobala, qu'il appelle aussi un enlève-ta-robe. Ça, j'ai pas besoin de vous expliquer.
Oui.
Ou encore l'espadine, qui lui donne de la force pour aller travailler le matin et de la force pour se reposer sans être trop fatigué le soir. Et justement, le mescal d'espadine, le plus courant, c'est celui que je vous ai ramené, Daniel, que vous allez pouvoir déguster.
Très bien. Dans une petite coupelle mexicaine, c'est très joli, hein, dessiné. Alors déjà, on le sent. Vous en avez aussi servi à notre invitée, hein, Anne Vallès, qui connaît très bien parce qu'elle a passé 6 années au Mexique, elle aussi. Donc vous sentez... Est-ce que c'est un bon, vous qui êtes aussi une connaisseuse, Anne Vallès?
Pas trop.
Pas trop. Pas trop connaisseuse ou pas trop bon?
C'est pas mauvais.
Ah oui, d'accord.
C'est meilleur que le souvenir que j'en avais conservé. Je le trouvais beaucoup plus raide.
Alors celui-là, pourtant, il est à plus de degrés que la norme autorisée, parce que je l'ai ramené dans mes bagages. Mais en fait, on sent vraiment le goût de la terre.
Voilà. Effectivement un goût de la terre. Alors comment on fait, au juste, pour déguster le mescal? Initiez-nous un petit peu.
Comme vous êtes en train de le faire un peu en vous étouffant, Daniel, c'est-à-dire qu'on le boit sans glaçon, sans citron, c'est-à-dire qu'on le boit vraiment comme ça, pur. Et ensuite, pour ceux qui ont un peu peur que ce soit trop fort, on peut le boire aussi dans des cocktails. Il y a des bars à cocktails qui font ça très bien. Et voilà, surtout ce que je vous disais au début de l'émission, c'est qu'en choisissant de boire un certain type de mescal produit par des Mexicains de façon responsable, on choisit de soutenir une certaine vision du monde. C'est d'ailleurs ce qu'explique très bien le patron de Koch, Carlos. C'est-à-dire que donner des conditions de travail décentes à ses employés mexicains, c'est leur permettre de rester travailler chez eux et d'être fiers du produit de leur terre.
Merci Zazie, on va mettre en ligne sur le site de France Inter et sur notre page Facebook votre vidéo réalisée pour Saumon Paris. Alors saumon-paris.com, hein, c'est votre site dont nous sommes partenaires. Et votre vidéo explique tout sur le mescal. Et puis les références aussi d'un livre que vous nous recommandez, paru cette année, toujours sur ce sujet. Mescal, l'esprit du Mexique, aux éditions Hachette. Et le mescal fait déjà un petit peu son effet. Merci beaucoup, Zazie Tavissian. Et donc, à la semaine prochaine. Et puis, Anne Vallès, vous avez eu le droit, certainement, à quelques alcools aussi, chez les bergers que vous avez rencontrés.
Oui, clairette de Die, vin de Bandol. Ouais.
C'était plus soft, plus sobre.
Plus soft, plus doux, oui.
Puis quelques bon fromage de brebis aussi.
Ah, parfaitement, oui. Ouais. Qu'on emportait avec nous, oui.
Je rappelle le titre de votre livre, Haute solitude sur les traces des transhumants, aux éditions de la Table Ronde. C'est signé Anne Vallès. Merci à vous d'être passé par notre bivouac.